Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Bien vous fasse. Et ce matin, en partenariat avec Ça m'intéresse santé, coup de projecteur sur l'orgasme féminin. Forcément subversif, car il ne servait pas à la reproduction, ce point culminant du plaisir féminin a longtemps effrayé l'humanité, et en particulier les hommes. Nous essaierons de comprendre ce qu'est l'orgasme féminin, ce qui le déclenche, ce qui freine son épanouissement, d'un point de vue psychologique ou organique. Nous attendons toutes vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook, et au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Colline et Adrien attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques avec Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
J'ai perdu mon orgasme.
Dans le taxi, en chemin?
Comment ça, tu l'as perdu?
J'ai passé les deux dernières heures à m'envoyer en l'air sans pouvoir conclure.
Mais ça arrive. On peut pas toujours arriver au bout.
J'arrive toujours au bout.
Tu y arrives chaque fois que tu fais l'amour?
Mais non, tu la connais, elle exagère. S'il te plaît, reconnais que tu exagères.
Oh, il m'est parfois arrivé d'être obligée de me terminer à la main, oui, c'est vrai. Mais une fois que la machine s'est emballée, je mets un point d'honneur à jouir. Qu'est-ce qui cloche avec moi?
Écoute, tu as encore des pelletées d'orgasme sous la ceinture. Tu verras, tout redeviendra normal.
Sauf si...
Quoi?
J'ai lu un article à propos d'une femme qui avait des orgasmes à longueur de temps. Et un jour, boum, paf, les orgasmes ont stoppé. Définitivement. Comme si elle avait épuisé tout son capital.
C'est la chose la plus méchante que tu m'aies jamais dite.
Un extrait de la série américaine Sex and the City. Qu'est-ce que l'orgasme féminin? C'est notre question du jour en collaboration avec le hors-série Ça m'intéresse. Santé consacrée au sexe et aux sexualités. Bonjour Heidi Béroux-Poyer.
Bonjour.
Bonjour Laura Beltran.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et sexologue et vous venez de publier chez Payot Santé Les femmes et leur sexe, sous-titré Ne plus avoir mal, renouer avec son désir, se sentir libre. Bonjour Philippe Bruno.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre, directeur des enseignements en sexologie et sexualité humaine à l'Université Paris-Descartes et vous publiez aux arènes BD avec Laetitia Corinne, Une histoire du sexe. Bonjour Juliette Sarfati.
Bonjour.
Vous êtes responsable éditoriale de Ça m'intéresse santé et vous avez une tonne de questions à poser à nos invités. Alors, quelle est, en sexologie, la définition de l'orgasme? Laura Beltran.
Alors, moi je dirais les orgasmes. Mm-hmm. Parce qu'avec cette histoire de l'orgasme, on a commencé à définir est-ce qu'il fallait avoir des sensations au niveau du clitoris, du vagin. Il y a toute une histoire sur l'orgasme féminin où on a un peu essayé de découper comme ça en morceaux le plaisir des femmes. On est dans une période où tout ça est un peu révolu et on commence à dire que l'orgasme, c'est quelque chose d'assez global et qu'il faudrait qu'on parle d'un orgasme clito-uro-vagino-anal, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties du corps qui peuvent quand même provoquer une sensation d'excitation importante, mais il faut qu'il se passe aussi quelque chose entre les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a entre les jambes et entre les oreilles, et si dans la tête on n'est pas prêt, ça ne va pas marcher.
Philippe Bruno, votre définition de l'orgasme féminin?
Oui, alors...
De l'orgasme en général.
Alors, de l'orgasme en général, d'abord, on pourrait dire que l'orgasme masculin n'existe pas. Jusqu'à il y a très peu de temps.
On est rassuré là ce matin.
Jusqu'à il y a très peu de temps, vous pouviez rien trouver dans des revues scientifiques sur l'orgasme masculin. Il est tellement un fait inaliénable qui serait un étalon que vous n'en trouvez pas de travaux, de définitions. C'est comme si l'orgasme féminin dont on parle depuis très peu de temps essayait de se définir par rapport à un étalon. Et tout a été fait, alors moi je dirais depuis une quinzaine d'années, il y a un vrai terrorisme de l'orgasme. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que les femmes jouissent sur le modèle masculin, d'ailleurs tout le temps. La deuxième chose, c'est que le mot orgasme, je ne pouvais pas le prononcer devant des patientes en 1990, il y a 25 ans. On ne pouvait pas le prononcer, c'était un gros mot. Et aujourd'hui, vous avez dans tous les féminins, dans tous les magazines, s'il n'y a pas deux fois le mot orgasme, je crois qu'il y a une baisse du lectorat.
Heidi Poyer.
Oui, moi je rejoindrais Laura et Philippe en disant que l'orgasme est multiple et que au fond l'orgasme c'est trouver le moyen de se faire plaisir, d'aller chercher son plaisir et c'est ça qui compte dans la relation surtout hein, parce que faut pas oublier que la sexualité c'est aussi la relation, donc aller chercher son plaisir plaisir, aller chercher à faire plaisir à l'autre aussi, et sans avoir peur de ce mot-là. Voilà.
Juliette Serfati.
Oui, moi je me demande en fait pourquoi l'orgasme féminin est si compliqué à définir, pourquoi il est multiple et pourquoi historiquement il est resté dans l'ombre.
Philippe Bruno.
Domination masculine, il n'y a pas d'autre ordre. Par exemple, regardez, tout le monde connaît cette espèce d'image du clitoris avec ses deux grandes jambes et on dit c'est extraordinaire. Les racines ont 12 cm en moyenne. Il a été découvert il y a seulement 10 ans. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il y a des représentations anatomiques du XVIIe siècle qui le montrent exactement. C'est connu. Sauf qu'on a surtout évité de dire qu'il existait. On a évité de dire que les femmes pouvaient ressentir du plaisir, parce que depuis le début de l'humanité, c'est cette chose-là qui est subversive. Si les femmes prennent du plaisir, si les femmes existent, et notamment à travers la sexualité, elles vont fiche en l'air tout ce que les hommes, les familles, les sociétés, la société a organisé. Et l'orgasme féminin, c'est certainement la chose la plus subversive de l'humanité.
Laura Beltran.
Ce qui est intéressant, c'est que quand même, sur l'orgasme féminin, pendant, comme Philippe dit, on connaît depuis longtemps comment existe le clitoris. À une période, on disait qu'il fallait stimuler le clitoris pour faciliter la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée aussi de sexualité qui a été extrêmement associée à la reproduction. Et du coup, le clitoris, c'est un organe qui sert que au plaisir, mais il ne sert pas à faire des bébés.
On y reviendra.
Alors, il a eu moins de succès.
J'aimerais vous délivrer cette définition de Wilhelm Reich de l'orgasme. Pour lui, c'est la capacité de se laisser subjuguer par un flot d'énergie biologique, capacité à décharger cette putain d'excitation, je le cite, cette putain d'excitation sexuelle par le moyen de convulsions du corps involontaires et agréables. Alors, est-ce que dans vos consultations respectives, est-ce que les femmes consultent beaucoup sur le fait qu'elles n'arrivent ou pas à accéder à l'orgasme, Heidi Bérou.
Oui, ça fait partie des demandes. Ce qu'on voit beaucoup dans nos consultations, c'est que les femmes, en fait, attendent de trouver l'orgasme par hasard, par magie, par enchantement, enfin. Et au fond, elles n'ont pas forcément accepté d'être actives dans la recherche de leur plaisir. Et en consultation, on va les accompagner vers ça, c'est-à-dire leur expliquer qu'au fond, chacune d'entre elles va pouvoir, si elle s'y intéresse, trouver le chemin de son plaisir et peut-être de l'orgasme. Mais les femmes, quand elles consultent, elles sont malheureuses de ne pas arriver à être dans la jouissance sexuelle.
Et oui, Philippe Bruneau, dans une société qui voue un culte à la performance, il existe presque une injonction à l'orgasme.
Mais oui, c'est à cause de ce terrorisme. Il y a une vingtaine d'années, on a eu très peu de demandes de cet ordre. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui viennent consulter parce que l'image que renvoie la société donne à des gens qui ont une sexualité normale, on ne définit jamais de normalité, mais des complexes. Et c'est vrai que j'ai vu depuis pas longtemps des sortes, moi je vais dire, de répudiation, ça n'existait pas, d'hommes qui vont arrêter la relation parce que cette femme ne jouit pas et ne jouit pas sur un modèle actuel qui serait d'ordre masculin, c'est-à-dire une sorte d'injonction presque permanente.
Juliette Serfati.
Est-ce que ces injonctions amènent de nouvelles inhibitions ?
Ah, ça peut amener vraiment des inhibitions. Il y a des femmes qui sont bloquées dans leur sexualité parce que, alors c'est exactement ce qu'évoquait Heidi tout à l'heure, l'image immédiate, et quand on demande à des femmes qu'est-ce qui vous procure l'orgasme, ben, c'est mon partenaire qui va le déclencher. La jouissance féminine a très peu de lien avec la performance de l'homme. Bien sûr, si elle est insuffisante, ça marche pas, mais toutes les femmes épanouies le savent, et celles qui sont en difficulté ne le savent pas, elles pensent un jour, je rencontrerai celui qui me déclenchera cela.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Ali.
Ça rend humble, hein, quand même. vous avez rencontré, dans votre reportage qu'on écoutera tout à l'heure, une femme qui vous éclaire sur les mystères de l'orgasme.
Oui, et c'est pas facile, parce qu'on peut parler de l'orgasme en général, d'ailleurs c'est ce qu'on fait là tous ensemble, mais c'est pas facile de parler de son propre orgasme. Si je vous demandais, Ali, de me décrire la façon dont vous jouissez, si je demandais à vos invités de décrire la façon dont ils jouissent, eh ben on n'ose pas le faire. C'est vrai, il y a une pudeur par rapport à ça, et une difficulté aussi de poser les mots sur cette chose-là.
Et vous, Thomas Chauvineau,
on en reparlera en antenne aussi, Ali, tout à l'heure.
À tout à l'heure, Thomas Chauvineau. Alors, il pourrait philosopher des heures entières sur l'orgasme féminin en convoquant Épicure et Heidegger, Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Dans votre petite philo de la pub et des marques, vous vous intéressez ce matin à une célèbre marque de cônes glacés.
Libérez la bête. Osez Magnum Double avec le nouveau Magnum Double framboise. Succombez au plaisir ultime.
Magnum, le plaisir est là, saisissez-le.
Voilà, petit montage, hein, Ali, de deux publicités récentes, donc de la marque de glace Magnum, conçue comme deux invitations à se faire plaisir, là, tout de suite, hein, à libérer le plaisir en croquant sans plus attendre dans une glace. Alors, l'association de la promesse de plaisir au produit qu'est la glace n'a pas grand-chose d'original, mais là où des marques comme La Laitière ou Carte d'Or choisissent le plaisir du goût, d'autres marques, comme on vient d'entendre, donc Magnum ou Extrême de Gervais, choisissent délibérément une version érotique du plaisir. La consommation d'une glace Magnum est donc censée procurer un plaisir semblable à celui de l'orgasme sexuel.
Sauf qu'il s'agit, Thibaut, d'un type bien particulier d'orgasme.
Oui, et c'est celui que l'on atteint seul. Voilà, pour Magnum, le plaisir est là, on l'a entendu, il suffit de s'en saisir, on aurait envie de dire à pleine main. Enfin, en tout cas, c'est ce que montrent les images. Il suffirait donc de le libérer. Ça constitue en fait une invitation à être soi-même la cause de son plaisir. La glace, finalement, comme la masturbation, n'a pas d'autre fin que le plaisir. Parce que on ne mange pas une glace pour ses qualités diététiques, hein. Elle ne nourrit pas. Voilà, la masturbation, quant à elle, n'a pas non plus de qualité véritablement affective, puisqu'elle ne relie pas, hein. Elle est solitaire. Pour Magnum, donc, la glace est donc un substitut efficace à la relation sexuelle. On garde le plaisir, mais on ne se soucie pas, hein, de la relation. Et dans la dernière campagne qu'on a aussi entendue, intitulée « Libérer la bête », le plaisir de la glace permet de libérer la bête sauvage, qui est, c'est bien connu d'ailleurs, au fond de chaque femme. Et d'ailleurs, ça effraie les hommes et donc ils s'en éloignent.
Mais qu'est-ce que cela nous dit au fond du plaisir ?
Eh bien, pour Magnum, le plaisir est donc une force à libérer, une expérience à faire immédiatement, une excitation à augmenter pour qu'elle explose. Bref, le plaisir est un mouvement qu'il s'agit d'intensifier au maximum, on aurait presque envie de dire au magnum, pourrait-on dire, donc, sans se soucier des conséquences. Cette intensification, elle constitue une libération et une façon de renouer avec donc une nature sauvage. Le plaisir qui est vendu ici est un plaisir archaïque, premier, tandis que sa canalisation relève de la mise en ordre, hein, de la morale et de la société. Bref, c'est une conception du plaisir très marquée par la psychanalyse et à ce titre, la promesse auto-érotique de la glace est assez régressive, avec un retour aux pulsions narcissiques et à l'érotisation de la bouche et de la dévoration.
Sauf que le plaisir, ce n'est pas que du mouvement.
Et exactement, et pour le dire vite, hein, très vite, en ce matin de bac philo, il y a bien deux façons de penser le plaisir. Alors, on peut le penser comme un mouvement, donc, mais aussi comme un repos. Eh bien, pour Épicure, le bon plaisir, le plaisir naturel, celui qui ne sera suivi d'aucune frustration, c'est le plaisir du soulagement de la douleur, celui de la satiété après la faim, celui de la guérison après la maladie, ou encore, pourquoi pas, celui de l'apaisement après l'orgasme. Le plaisir ici libère au contraire de l'excès, de l'intensification infinie, de la multiplication des désirs. C'est un plaisir sage, au sens où il se soucie davantage de la qualité de l'agrément qu'il procure que de sa quantité. Mais c'est un plaisir sage aussi parce que c'est un plaisir qui contient en lui-même sa propre limite et qui est donc d'emblée libéré de cette grande obligation de jouir que la publicité impose à grands coups de slogan à l'impératif. Se libérer à travers le plaisir de manger une glace, c'est une chose, mais quand est-ce qu'on prendra soin de libérer notre plaisir lui-même ?
Le regard de nos sexologues, Laura Beltran.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le plaisir, il y a vraiment l'idée d'égoïsme. Et je pense que des fois c'est un peu entendu comme un gros mot parler d'égoïsme quand on parle de sexualité et c'est quand même fondamental d'entendre que voilà, il faut être un peu égoïste pour avoir des orgasmes sinon ça ne marche pas.
Thibaut de Saint-Maurice, est-ce que les sujets du bac philo ce matin ont provoqué un orgasme chez vous?
Alors, je ne vous parlerai pas de ma vie intellectuelle intime. En revanche, non, cette question, par exemple, du plaisir est assez absente des sujets de ce matin. On a des sujets qui tournent principalement autour de la politique, de la connaissance et de la culture.
Et je vous laisse aller les corriger sur le site franceinter.fr?
Voilà, d'ici à peu près trois quarts d'heure, vous les retrouverez.
Allez, je vous laisse filer. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. La petite philo de la pub et des marques, c'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit, dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombre parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sous le ciel minéral, tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Bernard Lavillier interprétait Croisière méditerranéenne, un extrait du 21e album studio de Lavillier qui sortira prochainement. Bernard Lavillier qui sera l'invité d'honneur de Didier Varro dans Foule Sentimentale le vendredi 23 juin à 21h.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h27, qu'est-ce que l'orgasme féminin? Vaste question posée ce matin à nos invités, Heidi Berrou, Laura Beltran et Philippe Brenot. Et avec Juliette Serfati, responsable éditoriale de notre partenaire ce matin, ça m'intéresse, santé consacrée au sexe et aux sexualités. Bonjour Edouard.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous, cher Edouard?
Oui.
D'où appelez-vous? D'où appelez-vous?
Ah oui, de anciennement Picardie, les Hauts-de-France.
Bon, alors vous avez une question très précise.
Oui, très précise, à savoir, on parle de l'orgasme ce matin, mais je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est la simulation? Qu'est la simulation dans le sens où il y a des signes corporels?
On vous entend très mal, Edouard, on va essayer de vous reprendre un peu plus tard, parce qu'on vous entend vraiment très mal, et ça coupe, je suis vraiment désolé, ça coupe, Edouard, on va vous reprendre un peu plus tard. Philippe Brenot, aux origines de l'orgasme, une stimulation de récepteurs sensoriels situés sur certains organes stratégiques?
Oh ben, c'est vrai que nos sensations sont faites de chimie intérieure, et après il va falloir trouver les déclencheurs, les petits boutons sur lesquels on appuie. Et c'est tout le fantasme, par exemple, du point G, d'un certain nombre de stimulateurs, mais à l'intérieur du cerveau, effectivement, il y a un orage qui va se faire, que l'on n'aille pas forcément dans le détail. Oui, de la dopamine qui va stimuler toute cette période, et puis des endorphines, c'est quelque chose qui est comparable aux morphines, à la morphine et au plaisir morphinique. Mais je crois que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que s'il y a cet orage, c'est la façon de le vivre et de le déclencher qui fera l'intensité de nos plaisirs. C'est-à-dire la chose immédiate pour beaucoup, ça va être je vais à l'orgasme et je prends cet orage en pleine figure et je me relâche et je me laisse aller. Et puis l'idée quand même de l'érotisme, c'est de faire durer la phase précédente. Et les femmes connaissent beaucoup mieux ça que les hommes. Alors les hommes commencent à maintenant y venir, c'est-à-dire à laisser venir cette tension. Et c'est la définition, si on veut, de l'orgasme, c'est le relâchement après une tension qui a été forte, qui peut fluctuer, et tout d'un coup ce relâchement est contemporain de cet orage que l'on va appeler le plaisir et le plaisir orgasmique.
Juliette Serfati.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que au fond, physiologiquement, l'orgasme, c'est toujours pareil. Et ce qui diffère, c'est la façon dont on va le ressentir, n'est-ce pas?
Laura Beltran. Ouais.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a, quand je dis quelque chose qui se passe entre les jambes et quelque chose qui se passe entre les oreilles, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui va se passer entre les oreilles, qu'est-ce qui fait qu'on va être capable de recevoir ces sensations-là. En sexologie, des fois, on différencie ce que c'est l'orgaste et l'orgasme. L'orgaste, c'est une sorte de sensation physique, mais l'orgasme, ça va être comme ça, ça va être reçu avec des émotions, des affects autour de ça. Parce que sinon, c'est qu'une décharge mécanique. Et l'orgasme, c'est plus qu'une décharge mécanique. C'est les émotions qu'on va associer à cette stimulation physique.
Dans les années 60, le célèbre duo de sexologues Masters et Johnson a révolutionné la sexologie en identifiant les grandes étapes de l'orgasme. Philippe Brenot.
Oui, mais ils l'ont pas révolutionné, ils l'ont inventé. Ça n'existait pas auparavant. Ils vont faire ce qui est très étonnant. Le seul travail de toute l'histoire de l'humanité sur la sexualité, il n'y en a pas eu depuis, quasiment pas eu. Ils travaillent dans les sous-sols de l'hôpital, interdits par l'ordre des médecins, ils travaillent en secret, et ils vont montrer notamment une chose, c'est que ce soit l'orgasme ou la réponse sexuelle, des femmes n'est pas celle des hommes. Jusqu'à présent, ce sont toujours des hommes qui vont avoir tout codifié, que ce soit Freud, Kinsey, qui n'en savaient pas grand-chose. Et ils vont montrer, la réponse masculine est assez stéréotypée, et l'extrême variété des réponses féminines, ça montre simplement une chose, c'est que nos orgasmes, notre sexualité, est le fruit de l'apprentissage, de notre histoire personnelle, et il va y avoir autant d'orgasmes que de personnes.
Oui, j'ai envie d'ajouter que, au fond, évidemment, ça va jouer de s'intéresser à l'exploration de son sexe, de son corps dans son ensemble, et de faire bien circuler ça de manière harmonieuse avec la tête. Et au fond, tout bêtement, une femme qui pense à sa to-do list quand elle fait l'amour, eh bien, pour elle, c'est un petit peu plus compliqué d'accéder au plaisir, voire à l'orgasme.
Laura Beltran, quel est le rôle des préliminaires? dans la survenue de l'orgasme ?
C'est une préparation. Une préparation. C'est-à-dire que la sexualité, on a un peu cette idée que ça viendrait comme ça tout seul, avec cette idée du côté pulsionnel. Il faut savoir qu'il y a un cheminement pour arriver au plaisir. Et par exemple, on dit qu'il y a de la tendresse, il y a de la sensualité, il y a de l'érotisme, il y a du sexuel. C'est-à-dire qu'il y a un chemin. Pour y arriver, on n'y arrive pas comme ça dans un claquement de doigts. Ça peut arriver des fois, mais cette préparation, ça veut dire que une préparation dans le corps, mais une préparation dans la tête aussi. Le fait de fantasmer, par exemple, ça fait partie de la préparation à avoir du plaisir.
Et est-ce que c'est une idée reçue, l'idée que le cheminement des femmes vers l'orgasme est un peu plus long que chez les hommes ?
Ah, c'est pas si évident que ça, dans le sens que quand on voit combien de temps les femmes mettent, lors de la masturbation, à avoir un orgasme, on voit que les femmes, lors de la masturbation, peuvent y arriver très très vite à avoir un orgasme.
Juliette Serfati.
Oui, j'ai une question par rapport à ça. On entend dans les témoignages, on lit l'histoire de femmes qui parviennent facilement à l'orgasme, seules, mais pas en couple. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh oui, parce que les préliminaires n'ont été inventés que dans l'après Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, quand les femmes ont comparé leur vécu. Mais auparavant, je pense que les hommes rentraient, sortaient, tant mieux s'il y avait un peu de jouissance féminine. Et toute cette phase-là, il faut le redire, pour les auditeurs masculins, elle est nécessaire à ce cheminement pour les femmes, pour accéder au même degré d'excitation. Un homme peut y arriver rapidement. Et le problème, c'est que c'est elle qui va avoir codifié personnellement ce chemin, et cet homme ne va pas le trouver, parce qu'elle ne va pas quand même lui dire comment ça se fait, où est le chemin.
Heidi Berrou, l'orgasme féminin, c'est quelque chose de fragile, d'imprévisible ?
Oui.
Ou est-ce que c'est encore une idée reçue ?
Alors, je pense que l'orgasme masculin l'est aussi, hein, mais les femmes ont souvent peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les patientes qu'on reçoit, qui ont des douleurs, qui sont pas à l'aise avec la sexualité, et dont on parle dans notre livre, elles ont peur de ce mot-là. Et au fond, c'est ça qui rend fragile l'orgasme féminin. Parce que, comme le disait Philippe, si elles arrivent à s'approprier ce fameux chemin qui va les conduire à s'intéresser à la sexualité, à mobiliser de l'excitation, elles vont y arriver et le rendre moins fragile. Et d'ailleurs, les préliminaires, c'est pas forcément pendant l'acte sexuel, hein. Ça peut être commencer à faire des lectures, ça peut être imaginer ce qui va se passer le soir quand on rentre à la maison. Enfin, et ça, ce sont des choses toutes simples que les femmes oublient.
Et c'est très vrai qu'il faut quand même pas oublier, et plutôt on le sait pas, que les femmes ont été assignées à l'immobilité, à la passivité. C'est bien avant la chrétienté même, dans toute l'Antiquité, une femme, tiens, j'ai même entendu récemment une parole d'une personne âgée, une femme qui bouge est une catin, est une putain. C'est-à-dire qu'une femme, l'honnête femme était le réceptacle du sperme. Il y a d'autres femmes pour vivre le plaisir. Et cette injonction, même si elle est plus dite, elle est sue d'une part des femmes. J'attends, c'est bien lui qui va me provoquer. Eh bien non, comme Heidi vient de le dire, c'est au contraire aux femmes d'aller chercher. Souvent, on va leur prôner, on va leur dire, mais prenez votre plaisir, vous prenez son sexe, vous en faites quelque chose.
Et la voie vers l'orgasme, ça passe par une bonne connaissance de son corps et aussi par une bonne image de soi, Laura Beltran ?
Alors, je pense que s'il y a un message qu'il faut faire passer, c'est que le plaisir, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le plaisir, ça prend. Et ça prend de différentes façons. Bien évidemment qu'une connaissance de son corps, mais ça veut dire toucher, regarder, ressentir ce qui se passe dans le corps, être disponible dans sa tête, fantasmer, parce qu'il y a plein de femmes qui ne s'autorisent pas à fantasmer, parce qu'on fantasme sur des trucs bizarres. Les fantasmes, c'est toujours un peu bizarre. On fantasme pas sur on fait l'amour le samedi soir chez soi avec son partenaire. Il y a toujours quelque chose qui est transgressif quelque part dans le fantasme, et ça, c'est important de pouvoir se l'autoriser. Mais tout ça se développe, s'explore, se suscite, se titille. Il y a quand même cette notion d'apprentissage qui est quand même fondamentale quand on parle de sexualité.
Sur le fantasme, il a pas, il c'est pas forcé qu'il se réalise. On n'est pas obligé de réaliser ses fantasmes.
Non. Les fantasmes, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est autre chose. Et d'ailleurs, souvent les gens sont très déçus qu'on essaye de réaliser leur fantasme.
L'intérêt, c'est qu'il soit irréalisable.
Alors, il y a quelque chose de transgressif, d'interdit, qui va provoquer une excitation. Le but du fantasme, c'est ça. C'est provoquer une excitation. C'est à partir de là où une excitation psychique et une excitation physique, là, il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. C'est des images mentales qui vont provoquer une excitation.
Philippe Renaud.
C'est très vrai, ce que dit Laura est très juste, des fantasmes féminins la plupart du temps. Mais tu le décris très bien. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ces éléments de non-réalité, de transgression, qui vont permettre l'excitation. La plupart des fantasmes masculins sont désespérants. Ils sont réalisables. Ils sont réalisables, c'est-à-dire j'ai envie de te faire l'amour sur une plage au milieu de tout le monde, j'ai envie... Tout est réalisable. Et très souvent, les hommes confondent ou ne savent pas ce qu'est le fantasme. Ils confondent leur désir avec ce qu'on appellerait fantasme. Les femmes savent ce qu'est le fantasme, c'est le désir.
Conseillez-vous de partager ces fantasmes avec son ou sa partenaire, Heidi Berrou?
Pas forcément, parce que justement, le fantasme, comme on l'a dit, c'est l'imaginaire, c'est pas la réalité. Et au fond, partager avec l'autre le fantasme, eh bien, c'est le mettre un peu plus dans la réalité. Et ça peut beaucoup perturber l'autre s'il n'a pas le même type de fantasme. C'est assez rare, finalement, que deux partenaires soient complètement synchro sur les mêmes fantasmes. Donc finalement, le fantasme, c'est quelque chose à garder pour soi, à cultiver vraiment, et on doit beaucoup aider nos patients à se déculpabiliser là-dessus, parce que à partir du moment où ils fantasment, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va devenir réel, alors que le fantasme, vraiment, ça il est précieux, justement, il marche justement parce qu'il n'est pas réel, et voilà, c'est très important, le fantasme.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Paris, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Merci.
Alors, vous teniez à faire un distinguo ce matin.
Oui, alors c'était juste une petite précision au moment où j'ai entendu la différence, en fait, entre jouissance et orgasme. Et peut-être prendre le fait que certaines femmes n'arrivent pas jusqu'à l'orgasme, mais peuvent avoir, en revanche, beaucoup de jouissance. Et qu'il faut parfois dédramatiser le fait de ne pas arriver jusqu'à l'orgasme, et prendre en compte que c'est complètement un chemin. On se découvre, c'est vraiment un chemin de vie, comme on découvre son identité, on a aussi une construction sexuelle à développer. Et il y a vraiment le... Allô ?
Oui, oui, on a
oui, pardon.
On a quelques soucis techniques avec le téléphone ce matin, hélas. Mais on a bien compris votre question, Marie. Laura Beltran, sur ce que vient nous dire Marie sur le distinguo entre l'orgasme et la jouissance.
Il y a déjà la question de plaisir, c'est-à-dire comment on peut avoir une sexualité dans laquelle on a du plaisir et on n'a pas forcément un orgasme. C'est-à-dire que... qu'on a tellement focalisé sur l'orgasme, il faut avoir un orgasme, un objectif comme ça dans le rapport sexuel, où du coup on est dans une course à l'orgasme et voilà, il faut arriver à l'étape orgasme. Et on oublie que quand même, ce qui est intéressant dans la sexualité, c'est passer un bon moment. Et c'est important de pas avoir un rapport sexuel comme un examen dans lequel il faut qu'on ait une bonne note comme au bac, mais quelque chose de plus large. Et la jouissance, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus large.
Allez, nous attendons toutes vos questions et témoignages sur l'orgasme féminin au 01 45 24 7000. À suivre le reportage de Thomas Chauvineau. Do it to me again. 11h moins le quart, qu'est-ce que l'orgasme féminin? Une question posée ce matin à nos invités, Heidi Bérou et Laura Beltran, et Philippe Bruneau, et puis également Juliette Serfati, responsable éditoriale de notre partenaire ce matin, ça m'intéresse, santé consacrée au sexe et aux sexualités. Thomas Chauvineau, il est déjà temps d'écouter le résultat de votre enquête sur l'orgasme féminin.
Enquête, petite enquête, parce que j'ai eu du mal à trouver des témoignages, parce qu'on peut parler de l'orgasme en général, du sien c'est toujours plus touchy finalement, donc j'ai posé la question à plein de gens dans mon entourage, j'ai aussi des gens que je connaissais pas, et vraiment il y a cette, non je peux bien vous parler en général, mais dès qu'il s'agit de soi c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai quand même fini par trouver quelqu'un qui a accepté et qui m'a gentiment livré son vécu, son intime, parce que c'est vraiment de l'intimité.
Vous avez l'air troublé.
Et je lui ai demandé, de m'accompagner, enfin, je lui ai demandé de trouver un lieu qui serait un peu révélateur de son orgasme, enfin de ses orgasmes, et elle m'a dit tout de suite, ma voiture.
Ça s'est passé dans ma voiture et c'était assez intense en fait.
On peut rentrer dans le lieu du,
bien sûr.
Du plaisir ou...
Allons-y.
Je fais le tour alors.
Oui. On était à l'arrière évidemment, donc je vous inviterai pas à l'arrière. C'est assez petit, en plus c'est une grande personne, mais on a trouvé les moyens de...
On trouve toujours, quoi, c'est
ouais,
ça.
Oui, voilà. Oups. J'ai connu des hommes avec qui c'était systématiquement pareil. Donc ça devenait un petit peu lassant. Mais parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont pas très curieux. Il y en a qui sont pas très... Oui, tout simplement curieux. J'allais
dire
pas inventifs. Bah, qui n'ont pas forcément envie de connaître le corps des femmes. Et je pense que c'est primordial, en fait, de connaître le corps d'une femme pour réussir à la faire jouir.
Mais comment est-ce qu'on connaît le corps d'une femme ?
En l'explorant, en étant un peu curieux, peut-être en parlant avec elle. J'ai pas connu que des hommes qui n'étaient pas curieux et tout à coup je connais quelqu'un qui est formidable et curieux, mais il y a eu une majorité d'hommes qui n'étaient pas très curieux. Alors au début je me suis dit que c'était lié à la jeunesse, et puis après je me suis dit que c'était peut-être plus lié à la peur. Parce que l'orgasme et le plaisir féminin sont des choses qui font peur. C'est encore des notions qui font hyper peur, en fait.
Et est-ce qu'il y a des choses qui marchent à tous les coups ?
Oui, bah oui, il y a des choses un peu systématiques. Mais moi, je me connais bien. Du coup, j'ai eu le temps de m'explorer. Il y a des choses systématiques. Je pense qu'il les connaît. Donc voilà, mais assez régulièrement, il part à l'aventure. Il a envie de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où on peut aller, en fait. Et voilà, il m'a dit qu'il avait le sentiment que chaque millimètre carré de ma peau était capable de réagir à ses caresses. Et je crois que c'est le cas, en fait.
Et comment vous pourriez le raconter, ce plaisir, en posant des mots dessus ? Est-ce que c'est une vague ? Est-ce que c'est quelque chose qui monte ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répercute ? Voilà. Quels sont les mots qu'on peut mettre ?
Il y a un peu de tout ça. En fait, c'est par phase. Il y a des phases de vague, il y a des phases d'onde. Il y a des, ouais, des ondes sensuelles, comme dans la chanson de M. C'est un peu des vagues, mais c'est beaucoup plus diffus, en fait. Et puis, il y a des choses qui percutent énormément, qui sont assez violentes, qui arrivent dans le ventre, et qui remontent comme ça dans la poitrine et qui vont exploser dans la tête.
Parce que c'est dur de mettre des mots dessus, finalement.
Oui, c'est très difficile.
Quelque chose d'indicible.
Verbaliser ces mots-là, les mettre dans la tête, je sais pas, ça aide, ça motive, c'est une sorte de moteur. En fait, il y a
quand
un
vous
échange.
Faites l'amour, vous dites le mot vague, onde sensuelle.
Pas tout à fait, mais en tout cas, le truc part de là, du ventre, et puis ça monte au niveau de la poitrine, puis ça monte dans ma tête, et puis ça arrive devant mes yeux, je vois des vagues, je voyage, quoi.
Vous voyez des vagues ?
Ouais. Ouais. Je les ressens, je les vois, je voyage.
Reportage signé Thomas Chauvineau, réaction de nos invités autour de la table. Eddie Bérou.
Oui, j'avais envie de réagir au début parce qu'elle parle des partenaires et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes comme ça attendent le partenaire idéal, mythique, qui va leur faire ressentir l'orgasme suprême. Bon, heureusement par la suite, elle décrit bien qu'elle aussi, elle connaît bien son corps et que finalement c'est ça qui lui permet d'accéder à l'orgasme. Le message, c'est qu'au fond, la sexualité dans la vie, elle n'est pas figée, et que même si on n'a pas eu d'orgasme à un moment donné, si on apprend à se connaître, si on s'entend bien avec son partenaire, on pourra trouver l'orgasme, le plaisir un jour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bienvenue dans Qu'en voulez-vous fasse. Vous avez un témoignage sur notre sujet du jour consacré à l'orgasme féminin.
Oui, parce que moi je redécouvre un peu l'orgasme féminin depuis quelques mois avec ma concubine, qui maîtrise tout à fait son plaisir, qui se sert de moi égoïstement parfois, et ça ne me dérange pas du tout, au contraire ça m'amuse. Et dans ce qui vient d'être dit dans les commentaires, où l'orgasme féminin est complètement méconnu par les hommes qui sont soit curieux, soit pas ouverts au truc. Moi, gamin, j'étais frappé par des filles dans la cour d'école qui me disaient, dans leur jeu, je pouvais pas jouer avec elles, mais ils me disaient, tu peux pas jouer avec nous parce que tu peux pas comprendre. Et le « tu peux pas comprendre », je pense qu'il y a rien de plus incompréhensible pour l'homme que l'orgasme féminin. Et j'ai toujours été curieux et de vouloir en parler, et de vouloir jouer avec le corps féminin pour voir comment il réagit. Et c'est un plaisir aussi de jouer avec l'orgasme féminin quand on est un mec, plutôt que de voir quelque chose qui fait peur ou quoi. Enfin,
Philippe Renaud.
Oui, très intéressant votre témoignage par rapport, en reprenant le thème de la curiosité. C'est vrai que les femmes sont étonnées qu'une part importante des hommes ne sont pas très curieux. Et déjà, le fait qu'elles le disent, ça veut dire qu'elles ont eu plusieurs partenaires. À deux générations, donc grand-mère à arrière-grand-mère, n'avaient eu qu'un partenaire dans la vie. Et c'est ça qui montre que la sexualité est apprise à travers nos expériences. Et à partir de là, cette curiosité masculine, ça montre qu'elle est extrêmement différente. Et qu'il faudrait, allez, c'est un seul message que je donnerai, mais il est quasiment impossible, il faudrait qu'il y ait une éducation érotique. Car c'est pas un problème uniquement de sexualité. L'érotisme, ça se comprend, ça s'apprend, ça va s'apprendre au fil de l'expérience, et quelques-uns sont très démunis. C'est les femmes qui peuvent le faire connaître, et peut-être simplement, elles pourraient s'expliciter quelquefois, parce qu'elles osent pas le dire ou elles veulent pas le dire.
Laura Beltran, sur le témoignage d'André.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est un voyage, que c'est vraiment une rencontre avec l'autre. Je pense qu'il n'y a pas que l'histoire de l'homme et la femme. Des fois, il y a des relations sexuelles dans lesquelles ça se passe entre deux femmes. Il y a aussi l'idée de découvrir l'autre. Alors, c'est pas que homme-femme, c'est aussi découvrir quelqu'un d'autre qui fonctionne pas comme soi. Et alors qu'on parle dans un voyage un peu comme un explorateur, en fait, je pense que c'est cette image-là, de partir explorer un peu une terre inconnue.
Merci beaucoup André de nous avoir appelé. Alors une question qui préoccupe beaucoup Thomas Chauvineau. Y a-t-il des conditions et des positions idéales pour l'atteindre, cet orgasme féminin? Qui veut répondre autour de la table? Philippe Bruno, vous avez l'air complètement catastrophé par cette question.
Non, pas du tout. Ce que je veux dire, que c'est les femmes savent ça. Elles savent, je ne peux obtenir l'orgasme que de telle façon. C'est pas vrai de la même façon des hommes. Parce que très souvent, malheureusement, on va pas dans le détail, mais l'orgasme féminin s'est appris d'abord avec elle-même, et heureusement, c'est la masturbation qui est l'élément central d'apprentissage, mais ensuite, souvent, il va être ritualisé. C'est pour ça que malheureusement, certaines sont très focalisées sur le clitoris et ont du mal à en sortir. Et à partir de là, des positions vont être favorables. Il faut se parler.
Idi Berrou.
Oui, mais quand on parle des positions, on oublie la tête. Et encore une fois, je reviens avec ça, on peut avoir des orgasmes juste en fantasmant. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, on a beaucoup de messages sur Facebook et par courriel qui nous reprochent d'être hétérocentrés, Laura Beltran, ce matin.
C'est pour ça que j'ai dit que c'était la rencontre avec l'autre et pas forcément la rencontre avec entre un homme et une femme. C'est-à-dire que c'est pas vrai que parce que on est entre femmes qu'on sait ce qui se passe chez l'autre. Je pense que faut quand même dire que la rencontre, que les gens sont différents. Que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, il y a peut-être des parties du corps qu'on peut connaître et un peu mieux, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil.
Julie Serfati.
Et dans la dernière étude américaine, là, publiée en début d'année, les lesbiennes disent accéder plus facilement, plus souvent à l'orgasme que les hétérosexuels, mais toujours moins que les hommes hétérosexuels.
Eddie Berrou.
Oui,
ça vous laisse sans voix. Et j'aimerais vous citer une autre, je crois que c'est la même étude, dans une étude donc qui a été publiée en février dernier, des chercheurs ont interrogé 52 000 personnes en couple. Les chercheurs ont montré que les femmes ont plus de chances d'avoir un orgasme si ces trois pratiques sont présentes dans leur rapport sexuel: baiser langoureux, stimulation génitale manuelle et sexe oral. Précisons que c'est une étude basée sur du déclaratif. Philippe Bruno.
Oui, c'est très important tout ce qu'on est en train de dire. Ça dit quand même une chose. C'est pas l'histoire de Tirésias qui va dire que le plaisir féminin est plus important, mais c'est pas faux, il est beaucoup plus varié, et ce qu'évoquait Heidi est très important, c'est-à-dire que les femmes, on peut avoir des orgasmes mentaux, déclenchés uniquement par des fantasmes, sauf que ça n'existe quasiment que chez des femmes. Dans les grandes études qui ont été faites, on a trouvé des personnes qui sont capables, simplement par l'évocation, la montée du fantasme, de l'excitation, d'obtenir un orgasme. Ce ne sont que des femmes. Aucun homme ne peut l'avoir s'il n'y a pas une stimulation mécanique.
Question par courriel. Est-ce que la clé de l'orgasme, c'est encore et toujours le clitoris, Laura Beltran?
Le clitoris, ça vient d'un mot grec qui veut dire clé.
Clé, justement. Et est-ce que le clitoris est l'origine du monde orgasmique, Eddie Berrou?
Oui, on sait bien maintenant que l'orgasme féminin part du clitoris, qu'après il va pouvoir progresser vers d'autres zones, vers le vagin, vers l'anus, et évidemment que d'autres zones dans le corps vont pouvoir être stimulées. Mais les femmes ont tout intérêt à utiliser leur clitoris, sentir leur clitoris bouger quand elles font l'amour pour sentir ce qui se passe autour de leur clitoris en surface, et puis aussi à le découvrir en interne. Alors elles peuvent pas le voir, mais elles ont à apprendre que ce clitoris mesure en interne jusqu'à 10 cm comme le disait Philippe, et ça c'est très important.
Juliette Serfati.
Oui, puisque le mot d'apprentissage et d'éducation a été prononcé, on peut se féliciter qu'un éditeur de livres scolaires publie enfin un manuel où le clitoris est pour la première fois correctement représenté.
Alors Philippe Bruno, à contrario, selon certains chercheurs comme Barry Komisaruk de l'université Rutgers dans le New Jersey, l'orgasme vaginal ne viendrait pas uniquement d'une stimulation indirecte du clitoris. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je n'en sais rien.
Merci de
venir. Nouvelle. Moi, j'allais dire un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est ce qu'a évoqué Heidi il y a un instant. Le foyer clitoridien, ou l'orgasme est essentiellement clitoridien. Et quand il y a des bonnes conditions, il peut être déclenché de façon soit locale, clitoris, soit plus profonde, soit même à distance par une pénétration anale, quand il y a de bonnes conditions. quand la femme se connaît bien et quand le couple se connaît bien, il faut qu'il y ait une bonne communication.
Quels sont les freins à l'orgasme ? Alors, vous reviendrez pour parler plus précisément de ces freins, notamment physiques. Laura Beltran, Heidi Bérou, les freins physiques, les douleurs physiques répétées.
Alors il y a tout type de douleurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont concernées par des problèmes gynécologiques, qui vont avoir des infections à répétition,
des brûlures,
et qui vont se retrouver souvent chez le gynécologue pour parler de ça. Et puis il y a des femmes aussi qui ont des douleurs qui sont liées à des contractions périnéales, hein, dont elles n'ont pas forcément conscience, mais qui vont les amener à vivre avec douleur la pénétration. Enfin, il y a aussi des femmes qui sont vaginiques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être pénétrées. Elles sont moins nombreuses que celles dont j'ai parlé juste avant, mais ça, ce sont un ensemble de points physiques qui freinent évidemment la sexualité.
Il faudra que vous reveniez pour parler des freins physiques et psychologiques à l'orgasme féminin. Merci beaucoup Philippe Breneau. Une histoire du sexe est publiée aux Arènes. Les femmes et leur sexe, c'est publié chez Payot. Merci beaucoup. Heidi Bérou, Poyer et Laura Beltran. Demain, nous recevons le navigateur Sébastien Destremo, bon dernier du Vendée Globe. Nous évoquerons notamment la question de la solitude et du courage en compagnie de Laetitia Gaillet. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Tout de suite, Nagui et sa bande originale.
Grand bien vous fasse avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes.